L'émission Tétaclac, aujourd'hui je rencontre Jacques, donc au café associatif de Romans-sur-Isère qui s'appelle Le Passage. Donc on va discuter de tout ça, il va nous raconter un peu l'histoire, leurs envies, leurs motivations, leur énergie. Bonjour Jacques.
Bonjour. Alors Le Passage en fait il est né de l'idée de quelques personnes qui après avoir fait les élections municipales à Romans en 2020, je crois, si je me souviens bien, ont décidé, plutôt que de faire de la politique, on dira, classique, en s'inscrivant dans une opposition classique, ont décidé de se lancer dans l'aventure de la création d'un bar associatif. En sachant que Romans avait déjà une histoire justement avec les bars associatifs, on a eu l'occasion et l'opportunité d'avoir un local et on s'est lancé dans l'aventure.
Alors, pourquoi un café associatif ?
Alors, l'idée du café associatif, c'est que comme on avait monté une liste qui avait en fait des principes, la démocratie participative, très sensible au domaine de l'écologie et justement du social. Pour nous, on voulait vraiment être dans une démarche de concret. On avait besoin, je pense tous, de réaliser et pas seulement d'en parler. Et pour nous, c'était finalement réaliser notre utopie. Et on en avait tous une envie très forte et on s'est retrouvés là-dessus.
Alors donc après quelques péripéties, j'imagine, pour trouver le local.
Oui, ça a été un peu compliqué. On n'arrivait pas à trouver, mais un coup de chance fait que on a trouvé un local qui était parfaitement situé. Et on a eu aussi la chance d'avoir quelqu'un qui a pu nous aider, c'est-à-dire tout simplement un mécène. Et qui lui aussi a participé donc autant financièrement qu'ensuite physiquement, puisqu'il s'est beaucoup impliqué et que pour lui c'était aussi le projet de sa vie dans ce domaine-là. Et voilà, donc on a réussi à réaliser le lieu qu'on voulait.
Alors donc là, si je me souviens bien, vous êtes ouvert depuis, allez, on va dire 5 mois, 6 mois.
Alors nous avons ouvert le jour de la fête de la musique. Et dès le premier jour, le succès a été là. Un succès populaire immense. Là-dessus, moi, j'étais pas très inquiet. Je savais que ça marcherait. Parce que je pense qu'il y a une attente de ces tiers-lieux où les gens peuvent se rencontrer de façon, disons, indifférenciée, des petits, des grands, des vieux, des jeunes. Il n'y a pas de profil, en fait, de passagers, il y a vraiment toute la population, il y a pas, et ça marche.
Alors, est-ce que tu pourrais analyser la différence qu'il pourrait y avoir avec un bar classique, on va dire, dans la ville, par exemple, où effectivement, bon, les gens peuvent aller aussi, c'est un différencié aussi. C'est quoi la différence, finalement ?
Mais la différence, disons que déjà au niveau des ouvertures, on est ouvert le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche matin. Donc ça veut dire que derrière, souvent, il va y avoir une animation, quelque chose, une raison de venir. Là, en ce moment, par exemple, on a une exposition sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a une petite ambiance, un petit grain particulier qui fait que les gens ont envie de venir. Et quand ils viennent en famille, par exemple. Donc il y a les enfants qui vont jouer au baby et les parents qui vont discuter. Donc chacun peut avoir son lieu sans déranger l'autre. Et donc ça, ça, ça permet d'apporter quelque chose d'assez particulier, qu'on ne retrouve pas dans les bars.
Oui, en fait, la différence, c'est que c'est un lieu de rencontre et de création de liens, si j'ai bien compris.
Alors, c'est tout à fait ça. Hein. Ça d'ailleurs, tout est dans le nom, hein, le passage. Alors, la raison de ce nom... D'ailleurs, je pense que c'est à peu près la seule chose dans la création de ce lieu où il n'y a pas eu de conflit.
Ah oui.
Tout le monde a été d'accord du premier coup. Voilà, donc le passage, parce qu'en fait, ça communique entre deux places du centre-ville, c'est-à-dire la place Fontaine Couverte et la place Zamenhof. Et effectivement, pour que les gens se croisent, se rencontrent, que quand quelqu'un a un problème, eh ben, il trouvera la solution en venant au passage et en discutant avec quelqu'un. Faire que ce soit vraiment le lieu de la rencontre et de la convivialité. Voilà.
Donc vous avez combien d'adhérents ?
Alors là où on est très content quand même, parce que ça fait justement, tu le disais, ça faisait que 5 mois qu'on avait commencé, on a 400 adhérents. 400 adhérents, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc notre système, c'est un système où l'adhésion à l'année est de 5 euros au minimum. Et ensuite, comme nous sommes une association, toute personne qui veut consommer est obligatoirement adhérente de l'association. Si elle ne vient que pour un soir, par exemple, elle va pouvoir choisir l'adhésion à 1 euro pour la soirée. Mais c'est parce que nous sommes une association que nous avons en fait des membres qui sont les passagers et que seuls peuvent consommer les membres.
Alors vous êtes combien à l'initiative de cette histoire en fait à la base ?
Alors des doudingues, il y en avait, on était une quinzaine. On est parti à 15. 2 ans et demi plus tard, on doit être 13 en ce moment.
Il y a des gens qui ont quitté le navire.
Alors oui, effectivement, quand vous êtes dans une aventure comme ça, certaines choses ne se passent pas comme les gens le souhaitent et très souvent, enfin en tout cas c'est ce qui s'est passé, ils sont partis de leur plein gré, sentant bien que ce collectif ne leur correspondait pas ou ne leur convenait pas. Il est vrai qu'individuellement, c'est une aventure qui peut parfois être assez compliquée. Dans le sens où, comme un collectif prend des décisions, l'individu doit accepter les décisions que le collectif prend. Et des fois, ça peut être compliqué parce qu'on peut vraiment ne pas être d'accord. Et il faut malgré tout accepter la décision, surtout qu'on prend des décisions par consensus.
Alors, vas-y, explique.
Alors, la décision par consensus, c'est-à-dire que il ne faut pas que quelqu'un ait vraiment un non définitif sur la décision.
Ça va à contrario de ce que tu disais là, il y a 5 minutes.
Alors, parce que justement, quand ça se passe, on va pouvoir effectivement accepter le fait que, par exemple, si vous êtes le seul à être contre une décision, vous allez comprendre que véritablement, ça va être compliqué de tenir sa position. Après, quand on se retrouve tout seul chez soi, on peut vraiment être très contrarié et ne pas l'accepter. Donc, il y a des notions quand même d'acceptation qui peuvent parfois aller très loin. Donc, c'est l'apprentissage de l'individu à accepter ce que le collectif lui impose. Donc, des fois, ça peut être compliqué. Et puis, il y a des histoires d'individus, c'est-à-dire que il y a des gens, ils s'entendent pas avec d'autres personnes. Certains vont passer au-dessus de ça et dire bon, c'est pas grave. Quand d'autres vont eux vraiment bloquer et dire j'arrête quoi, je peux pas m'entendre avec ces personnes-là.
Parce que il me semble que sur le consensus. En fait, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui dit non, en fait, on revient, on redébat, etc., etc. C'est ce que vous pratiquez ?
On essaye.
Ouais. C'est long, quoi. Hein ?
Ouais. Ça peut être compliqué. Ce qui peut être parfois compliqué, c'est que cette notion-là peut s'appliquer sur des points très particuliers qui peuvent vraiment être des points de détail. Et on peut perdre beaucoup de temps. Et donc, ce qui est très difficile parfois dans le collectif, c'est qu'il y a des gens, ils arrivent à avoir un peu de hauteur de vue, c'est-à-dire qu'ils disent « bon, c'est pas compliqué, ok, on lâche, c'est pas si important que ça », alors que d'autres vont vraiment
s'accrocher aux détails, aux principes peut-être.
Voilà, donc ça crée quand même, à un moment, quand c'est pas tant un point qui peut poser problème, c'est l'accumulation de tout ça. Donc la difficulté du collectif, c'est de durer justement, et malgré toutes les tensions.
Pourquoi il y en a beaucoup ?
Là, non. Ben non, il n'y a plus de travaux.
Tu vas pas me dire oui.
Non, enfin, il y en a.
C'était certainement tendu parce que vous étiez pris aussi dans le... Voilà, il fallait ouvrir, il fallait faire des choses,
mais,
quoi, c'est ça.
Mais justement, cette tension-là, elle est absolument nécessaire. Et s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ce qu'on a réalisé. Il ne faut pas se leurrer. On est arrivé quand même, moi je trouve, à un vrai tour de force. Parce qu'avec les personnalités qu'on a dans ce collectif, à un moment on se disait, mais ça ne va pas marcher, quoi, c'est pas possible. Mais oui. Parce qu'il y avait quand même des personnalités très fortes, et donc ça peut chauffer. Mais finalement, c'est ce qu'il fallait. Voilà, une bonne recette, hein, il faut tous les ingrédients.
Ouais, c'est ça. Il ne faut pas refuser en fait le conflit entre guillemets à partir du moment où il se dégage une certaine énergie pour que ça avance, quoi.
Voilà, et qu'il ne fait pas trop de dégâts.
Oui.
Je pense que le secret, en fait, de la réussite de ce travail, c'est quand même une organisation très bien pensée. Et ça, il faut en tirer le chapeau aux femmes qui sont dans ce collectif, puisqu'elles ont une capacité d'organisation assez fabuleuse. Et comme on les a laissées faire...
Ça a fonctionné.
Après, il a fallu un peu parfois les calmer, mais on n'y arrivait pas.
Vous avez lâché.
On a lâché.
C'est bien.
Non, pour être honnête, il y a eu vraiment une puissance de travail de la part de ce collectif qui m'a absolument, en étant à l'intérieur, par certains moments, vraiment beaucoup épaté. Et c'est vrai que je le dis, mais que j'ai vu des femmes agir ensemble et qu'elles m'ont vraiment estomaqué, quoi. Et voilà, c'est tout à fait... c'est vraiment une réussite collective, voilà.
Oui, il y a une mixité, c'est ça que tu veux mettre le point là-dessus, peut-être.
Oui, et puis c'est la capacité d'engagement, d'aller jusqu'au bout des choses, d'organiser des choses de façon multiple, parce qu'à un moment il fallait faire feu de tout bois, quoi. Il y avait le règlement intérieur, les travaux, la gouvernance, donc c'était quand même c'était très très complexe. Et le fait d'être organisé comme on l'était, c'est-à-dire un collectif d'administration qui se réunissait chaque mois, des commissions avec des référents qui était indépendante, on fait que on est arrivé quand même à faire quelque chose très très structuré.
Et alors, vous avez combien de commissions finalement ?
Alors les commissions, si vous voulez, il y en a qui là, on doit être sur 7 commissions là. Donc vous avez.
Ça fait à peu près un binôme par commission, à peu près. Alors, non, c'est pas.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'en général, pour chaque commission, il y a un référent. Il va y avoir un doublon. Et après, il y a des gens qui rentrent dans les commissions. Comme on est 14, ça faisait on a demandé que chacun ne soit que dans 2 commissions. Parce qu'autrement, c'est ingérable. Et dans chaque commission, par exemple, on est responsable d'une commission et doublon dans l'autre commission, pour pas être Enfin, après, ça fait trop de pouvoir entre les mains d'une seule personne, et quand la personne n'est pas là, ça, c'est très compliqué.
Donc, Et alors, les commissions, elles décident ou elles sont, entre guillemets, obligées de rendre compte de, à une assemblée générale, en fait, à toute l'équipe, ou elles sont capables de prendre la décision sur un sujet, quel qu'il soit ?
Les commissions ont la capacité à prendre des décisions sans en référer au COLDAD. Mais effectivement, il y a des décisions importantes et là, on réfère au COLDAD. C'est-à-dire qu'on fait remonter l'information, on prend la décision ensemble et ça redescend. Mais après, la recherche d'autonomie des commissions, c'est aussi quelque chose de très important. Parce qu'autrement, on ne peut pas tourner, quoi. On ne peut pas toujours référer. Donc, et ça marche, hein, ouais. ça marche.
Ouais. Oui, il y a une autonomie en fait qui se crée.
La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de gens qui viennent s'impliquer dans les commissions. Par exemple, on a une commission communication, on a vraiment besoin de gens aujourd'hui dans la com. Parce que, comme on veut créer des événements, il faut communiquer. On peut pas le faire parce que déjà, nous, on a nos occupations, on est quand même dans l'organisation, on a déjà des responsabilités, on ne peut pas s'en rajouter. Et là, on a vraiment besoin de gens. Les bénévoles, c'est une commission qui marche très bien, mais plus il y aura bénévoles, mieux ce sera. Parce qu'on reste sur des ouvertures le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche matin, mais s'il y a plus de bénévoles, on pourra tout à fait ouvrir le mercredi toute la journée, avoir des activités pour les enfants. Donc tout ça dépend en fait de notre capacité à fédérer et à faire que les gens viennent faire tourner le lieu. Parce que notre but c'est ça. Nous on a fait ça, mais on a l'envie que ça devienne un lieu qui soit pris en main par les gens. On n'est pas des organisateurs. Nous on organise, mais on organise la structure. Les activités, on souhaite vraiment que ce soit les gens qui les amènent et qui les fassent tourner.
Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas ou ça commence à venir ?
Alors, pour l'instant, ce domaine-là n'est pas très actif parce qu'on ne peut pas tout faire de toute façon. Ça fait pas longtemps qu'on est ouvert. Notre idée, c'est quand même d'arriver à faire des événements une fois par semaine, soit le vendredi soir, soit le samedi soir. Que ce soit musical, théâtral, philosophique, politique, culturel, enfin, quelque forme qui soit un moment de convivialité. Donc, si déjà on arrive à faire ça, c'est pas mal. Après, si c'est plus, il nous faut plus de gens, plus d'implication, plus de bénévoles.
Donc, tu m'as dit 400 adhérents ? Sur 400 adhérents, ça reste de l'adhésion, mais ça ne provoque pas forcément de bénévolat actif et concret dans votre structure.
Alors, sur le bénévolat, moi, ce n'est pas moi le mieux placé pour en parler. Sur le bénévolat, effectivement, je crois qu'il doit y avoir 30 personnes.
En fait, vous êtes en autogestion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ni subvention, ni... voilà, vous fonctionnez, enfin, si j'ai bien compris... Tout ce que vous rentrez, par exemple, quand vous faites un spectacle, une activité où ça ramène un peu de sous, ça permet de payer les frais, etc.
Alors voilà, notre fonctionnement, c'était d'être libre. Donc l'idée d'être libre, c'était déjà de ne pas demander de subvention. Comment on a pu fonctionner aujourd'hui pour que ça tourne ? Ben, tout simplement, on a fait une campagne de financement participatif. On a obtenu aussi le mécénat, en fait, une aide du Crédit Mutuel. Et après, ce sont toutes les activités qui ont été, en fait, auto-financées. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Évidemment, si les gens peuvent continuer à donner, puisqu'en fait, comme on est une association d'utilité publique, les gens qui font des dons pour le bar associatif Le Passage sur Eloasso peuvent avoir une réduction d'impôt directement sur l'impôt de 66%. Il y a effectivement la possibilité de faire des dons sur Elo Asso pour le bar associatif Le Passage. Voilà. Et après, justement, oui, l'idée, c'est vraiment de nous autofinancer. Et là où on est très, très content, c'est qu'après 6 mois d'activité, on arrive à le faire. Voilà, ça, c'est vraiment...
C'est un succès, on peut le dire.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, qu'est-ce que tu aurais comme message à passer pour Le Passage ?
Eh bien, mon message, c'est que quand ça passera sur la radio, ben, on aura plein d'activités et que vous irez sur le site Le Passage ou sur Facebook sur Le Passage Roman pour voir quels concerts et quels artistes viennent et puis que vous viendrez surtout nous voir.
Alors voilà, donc là, c'est Christian qui est donc le fameux mécène de l'histoire. Donc c'est important de le recevoir aussi et de savoir un petit peu son point de vue, qu'est-ce qui a motivé en fait cette création, parce qu'il s'est quand même investi beaucoup. Donc je te laisse parler, Christian.
En fait, il y a 2 ans et demi, quand on a commencé à parler de faire un café associatif, les gens du groupe, parce qu'on faisait un petit groupe là, les gens du groupe ont cherché à trouver un lieu pour faire ce café associatif. Et donc, comme ils ne trouvaient pas de lieu, soit ils trouvaient des lieux tout petits, soit des lieux qui leur coûtaient cher en location. Donc, et que moi j'avais de l'argent de côté dont je ne savais pas trop quoi faire a priori, bon c'est un petit héritage hein. J'en avais pas besoin a priori, j'ai dit ben moi je veux bien éventuellement acheter un local et que je vous louerai avec comme consigne vous me louez. On fait une association, elle me le loue, et ça comme ça, je rentre dans mes frais, j'ai pas de, ça me coûte rien à l'avenir. Quoi. Donc on a trouvé ce local, qui est en centre-ville, qui est bien situé, et qui est tout juste à côté de chez moi, donc c'est pratique pour moi. Et donc on a commencé je l'ai acheté, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais bon, disons qu'on a réussi à l'acheter. Et après ça, on a commencé à vouloir l'aménager. Au bout d'un temps, j'ai dit, les gros travaux qui sont les travaux de structure, qui sont des travaux de propriétaire, je veux bien les financer, mais je donne une certaine somme qu'on ne dépasse pas parce que... je suis pas, j'ai pas des finances infinies, donc on s'est donné un budget de travaux et on a fait une bonne partie des travaux nous-mêmes, sauf certains travaux qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes, donc où il a fallu demander à des artisans de faire les travaux, ces travaux-là. Donc voilà, donc on a. Puis bon, j'aime bien bricoler, donc ça m'allait. Ça a été un petit peu dur parce que c'est prenant quand même. Oui. On a beaucoup bossé, donc il y a tout un groupe qui s'est impliqué dans les travaux.
Mais est-ce que le projet t'intéressait ? C'était plus qu'un investissement, on va dire. Il y a quelque chose qui te motivait particulièrement ?
Disons que moi, je suis assez motivé par le fait d'avoir des lieux pour être ensemble. Avant, il y avait eu un autre café associatif, la Boucherie Chevaline, qui était rue Pêcherie. J'y avais participé aussi, ça m'intéressait. Puis bon, je suis pas mal impliqué dans la maison de quartier Saint-Nicolas. Pour moi, c'est essayer de faire des lieux de vie où les gens puissent se rencontrer. Moi, ça m'intéresse. Et puis bon, si, comme j'ai les moyens...
Oui, c'était l'occasion, en fait, de participer à la mise en œuvre de ce projet.
Voilà.
Et donc, tu participes un peu tu es dans l'association ou pas du tout ?
Je suis dans l'association, oui, mais disons que là, je me suis beaucoup investi sur les travaux, donc je suis resté au niveau des travaux, j'ai pas investi sur le fonctionnement de l'association, sur les commissions, programmation et tout ça, non, ça, Bon, je laisse les autres, ils le font beaucoup mieux que moi. Et...
Parce que si j'ai bien compris, le loyer, en fait, c'est juste les charges, c'est ça?
Toutes les charges que
toutes
j'ai.
Toutes les charges donc, que tu as sur ce lieu, quoi.
Oui.
D'accord. Tu es content, en fait, du résultat? Est-ce que...
Oui, bah, disons qu'il y a, il y a parfois des choses, des initiatives des uns qui ne correspondent pas aux, à ce que les autres voudraient. Donc, c'est, ça, a toujours, ça a été pas mal de discussions aussi.
Oui.
Comment on fait ceci, comment on fait cela.
Bien sûr,
ouais. Puis après ça, en fonction des finances qu'on a, est-ce qu'on peut se permettre de faire ceci, de faire cela? Il y a des choses qu'on avait prévues qu'on n'a pas encore faites. Et puis, bon, on verra plus tard.
Mmh. Mais globalement, voilà, ça...
Bon, ça peut tourner, là, maintenant.
Ça peut tourner.
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis pour un coin de parapluie. Je ne perdais pas au champ. Chemin faisant que ce fut tendre, d'ouïr à deux le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie, pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis. Quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis pour un coin de parapluie. Je ne perdais pas au champ. Bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien vit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli.
Un petit coin de parapluie pour un coin de paradis. Il avait quelque chose d'un an. Un petit coin de paradis pour un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi.
Donc, je suis Fanette Florio, je fais partie des membres fondateurs du Café Associatif. Et donc historiquement, j'ai commencé à appartenir à la commission gouvernance, donc qui a monté tout le travail de projet d'accompagnement du collectif d'administration du Coldad pour la réflexion du système de gouvernance, des systèmes d'animation, etc. Donc cette commission, elle devient de plus en plus petite puisqu'elle a, le fonctionnement est enclenché. Et à la commission aménagement et à la commission travaux, au fur et à mesure qu'on a eu besoin d'avancer là-dessus. Et puis maintenant, ce sont deux commissions qui sont en train de finir aussi. Donc actuellement, je suis essentiellement référente de la commission bénévole. Voilà, et bien sûr, je suis membre, en tant que référente, je suis membre du Coldad. Voilà, un petit mot juste sur le Coldad et notamment, pourquoi est-ce que les passagers ou bénévoles ne rentrent pas comme ça ponctuellement et au fur et à mesure de l'année à ce Coldad?
La première raison principale, c'est que déjà c'est décidé en assemblée générale. Donc à ce moment-là, il faut que les adhérents qui sont présents prennent cette décision, ou par pouvoir s'ils le souhaitent. Donc c'est vraiment une décision de tous les adhérents de faire entrer des membres dans ce Poldan. Donc c'est la première raison. La deuxième, c'est que ce sont les commissions qui sont souveraines. Elles décident, elles prennent toutes les décisions qui sont bonnes pour le fonctionnement du café associatif. Et elles ne se réfèrent au Poldan que s'il y a des questionnements sur les valeurs du café. Est-ce que une décision à prendre dans une commission correspond bien aux valeurs du café associatif? Donc voilà, elle peut se référer au Poldan pour ça, c'est la première raison. Quand il y a des décisions financières importantes à prendre, par exemple la commission aménagement a acheté une machine à café pour la somme de combien, 700 euros, c'est une somme importante pour notre budget, très importante, mais c'est un investissement, elle demande au Poldan, une décision avait été prise préalablement au cours de l'année suite pour cette machine à café.
Quand vous êtes par exemple deux sur une commission, il y a toujours un référent du Poldan, c'est ça?
Tout à fait, voilà.
Donc c'est quand même une sorte de garantie, ou quel est le mot?
Alors pas du tout, c'est pas une garantie. Le référent, lui, il ne porte rien à proprement parler en termes ni de décision, il est à égalité, qu'il soit dans le Poldan ou quand il est membre du Poldan, quand il travaille dans le Poldan ou quand il travaille dans la commission, il est à égalité avec les autres. Il est référent, c'est-à-dire que lui, il va veiller au bon fonctionnement de la commission, il va veiller à faire des retours au Poldan s'il y a besoin. Alors en ce moment, comme on vient d'ouvrir, il y a besoin. Et il va veiller effectivement à ce que cette commission, elle travaille ou elle s'arrête si elle n'a plus lieu d'être. C'est juste ça, il a un travail de référence entre le Poldan et la commission, ou entre le Poldan et les bénévoles ou les passagers, voilà. Et donc il a vraiment il est là juste pour garantir que tout se passe bien, etc. Mais il n'est pas là pour c'est pas lui qui s'inquiète de choses, c'est vraiment la commission qui va s'inquiéter de est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe pas bien, est-ce qu'il y a besoin de choses, est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis du Poldan. Donc ça c'est important, parce que de ce fait là les passagers, les bénévoles, eux, en fait, ils ont vraiment pouvoir dans ces commissions.
Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de revenir là-dessus.
Oui, en fait. Tout à fait. Et le Poldan n'est absolument pas souverain là-dessus. Hein. Vraiment, c'est pour ça que j'utilise le terme de souveraineté, parce que du coup, c'est vraiment, je dirais, si on pense un peu hiérarchiquement les choses, comme souvent on peut avoir envie de le faire, c'est vraiment la base qui décide. Et il y a des éléments qui sont au-dessus, entre guillemets, parce que plus présents, plus investis, plus engagés, mais en fait, ils dépendent de cette base, et ils sont tributaires de cette base.
Donc, pour adhérer à une commission, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez une forme de... Non?
Non.
Juste l'envie et l'engagement, quoi, quelque part, un peu?
Tout à fait. Il suffit d'adhérer au café. Alors, l'engagement, non, pas forcément. On peut venir ponctuellement à une commission. Voilà, j'arrive, j'ai envie de faire venir tel intervenant au café associatif. Je le connais bien, ça m'intéresse ce qu'il fait, j'ai envie de le partager. Je vais venir une fois à la commission programmation. Je vais être accompagnée par ceux qui sont par les référents et par ceux qui sont habitués à faire fonctionner cette commission. Et donc, on va m'expliquer comment ça fonctionne. Et donc, moi, je vais prendre en charge, je vais appeler la personne que je veux faire intervenir, je vais vérifier qu'il a bien mangé le soir, donc s'il a bien un catering le soir pour intervenir, je vais vérifier que, je sais pas, qu'il a besoin de matériel ou pas, je deviens référent de cet événement-là. Mais si ça s'arrête, j'ai plus d'envie, ou pas de temps, peu importe, je suis pas obligée.
Ça peut être ponctuel, quoi.
Exactement.
D'accord, ça c'est bien de le préciser, parce que
tout à fait,
ça peut donner aux gens l'envie, voilà, par moment, tiens, j'ai une semaine de vacances, je peux donner de mon temps sur un projet,
Tout à fait, c'est vraiment quelque chose.
Ou des idées à soumettre, peut-être, ça peut être que des idées à soumettre aussi.
Alors, on a un fonctionnement qui est fondamental au café, c'est vraiment la co-responsabilité. Et effectivement, une idée peut être soumise, mais s'il n'y a personne pour la mettre en œuvre, elle va s'étioler. Mais par contre, je peux avoir une idée et rencontrer sur place des gens qui sont beaucoup plus motivés ou ayant plus de temps, plus d'énergie ou de connaissances pour la mettre en œuvre, bien entendu, heureusement. Hein.
Ah oui, c'est ça.
Et heureusement que ces idées d'installation,
oui,
elles circulent, tout à fait. Et elles naissent les uns des autres, complètement.
Génial.
Voilà. Donc ça, c'était un petit point sur la question des commissions et de leur souveraineté. Et puis, donc, moi, je suis référente de la commission bénévole, de la commission bénévole bar. Donc, on est un petit groupe, on est 5, je crois, 4, 5, qui nous occupons de ça. Et donc, ça consiste à vérifier avant tout qu'il y a bien des bénévoles présents pour tenir le bar les soirs d'ouverture habituels ou les soirs d'événements. Former les bénévoles. Alors former les bénévoles, c'est pas nous qui les formons, mais ce sont les bénévoles habitués à tenir le bar qui, lorsqu'ils accueillent un nouveau bénévole, vont le former. Vérifier que le planning pour les bénévoles est à jour. Donc c'est-à-dire que chaque mois le planning est réactualisé en fonction de la programmation et donc on vérifie qu'il y a bien ce planning qui est à disposition.
C'est arrivé des fois qu'il n'y ait pas de personne pour...
Oui, bien sûr.
Oui, ça arrive.
Oui, ça arrive.
Vous gérez ça comment ?
Je trouve globalement depuis les 5 mois au total, mais bon, il y a eu les vacances scolaires, les grandes vacances au milieu, c'est arrivé assez peu, donc à ma grande surprise. Donc ça a dû arriver peut-être 3 fois qu'il n'y ait pas de personne pour tenir le bar, ça va. Et donc, on est en train de réfléchir au prochain Coldan, donc le 1er juin, on va réfléchir, est-ce qu'on va quand même chercher des bénévoles ce soir-là ou est-ce qu'on laisse, on ferme, voilà. Voilà. Parce qu'en cherchant des bénévoles, en étant proactif, on va trouver des gens, ça c'est sûr. Voilà. Donc, c'était un peu en suspens jusqu'à présent. Donc, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Donc, voilà, une petite décision. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, la commission bénévole ? Elle veille aux bonnes relations entre les bénévoles. Elle ne va pas veiller, elle ne va pas surveiller, pas du tout. Elle va y être attentive. C'est-à-dire que là, on a eu une première réunion, la réunion des bénévoles. C'est-à-dire que c'est un temps où on a fait un point sur est-ce qu'il y a des difficultés, des questionnements quand on tient le bar, des choses qui nous sont difficiles à vivre ou pas confortables toutes les questions qui peuvent émerger, que ce soit très concrète, j'arrive pas à allumer la machine à café, ou au contraire, il y avait quelqu'un qui était là et puis en fait il a beaucoup discuté avec des passagers et du coup moi je me suis sentie en difficulté, j'ai pas osé lui demander. Donc voilà, il y a des choses qui vont se faire à cet endroit là là on va avoir la soirée des bénévoles, la fête des bénévoles, le café va accueillir tous les bénévoles qui sont engagés à tenir le bar et qui vont donc pouvoir partager un moment. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait d'autre, la commission bénévole ? Grosso modo, elle serait unie une fois par mois. Mais il peut y avoir des échanges mails et téléphoniques pour simplifier nos échanges. Je dis grosso modo parce que c'est pas systématique. Par exemple, là, au mois d'octobre, on ne s'est pas réunis. Ça roulait, il n'y a pas eu
de besoin,
il n'y a pas eu de nécessité. Voilà.
Donc en fait, il y a un endroit où on s'inscrit ou comment vous fonctionnez à ce niveau-là ?
Alors,
basiquement,
y a un lien qui est sur la newsletter du Café Associatif, en bas de la newsletter, de toutes les newsletters, où on peut, on clique dessus, on met son nom et le jour J, il y aura un bénévole habitué qui sera là pour nous former. Voilà, il y a aussi on peut envoyer un mail à bénévole@cafélepassage.org, bénévole avec un S. Et donc là, il se trouve que c'est moi et Émilie qui recevons ces mails. Et donc, à ce moment-là, pour poser toutes les questions, si on n'arrive pas à s'inscrire par un lien internet, voilà. Donc parmi les travaux qu'ont réalisé la commission gouvernance. J'évoquais tout à l'heure qu'il y avait cette question de l'animation des groupes qui sont importantes parce qu'elles contribuent au bon fonctionnement et à la bonne prise de décision et c'est aussi une garantie de démocratie, du fonctionnement. Elle a aussi donc travaillé sur les schémas de gouvernance, mais elle a aussi elle a travaillé pour se doter d'un organe de gestion des conflits. Et donc c'est quatre personnes qui sont proposées, qui se proposent ou qui sont proposées par le Coldad pour appelé, on va dire, à gérer un conflit. Et donc,
une sorte de médiation, médiateur.
Exactement. Ouais. Ils vont faire médiation. Ils vont agir à deux. C'est-à-dire que les personnes qui sont sujets du conflit vont choisir un ou une des quatre personnes. Et donc, bien sûr, c'est paritaire, il y a deux hommes et deux femmes, pour choisir la personne qui leur paraît la plus à même de les sécuriser dans cette médiation. Et donc, à partir de là, dans un premier temps, les médiateurs vont rencontrer séparément les gens qui sont en cause dans le conflit. Et il y a une grille très protocolaire et rigoureuse qui a été écrite, où on va évoquer à la fois des faits et à la fois des ressentis. Donc ces grilles, à la fin des grilles, les individus vont faire des demandes précises dans le but de régler le conflit. Et ensuite, il y aura une mise en commun des personnes présentes avec les médiateurs, où les demandes seront lues et voilà, elles seront éventuellement discutées, acceptées et validées. Le Coldad peut être appelé à intervenir et à ce moment-là, il lira les grilles et il peut faire tiers par son groupe pour aider à accompagner la fin d'une gestion de conflit. Voilà. Et en bout du bout, si effectivement il y a des éléments fondamentaux qui ont été brisés, des éléments fondamentaux relationnels, des violences, quoi que ce soit, il peut être amené, dans un cas extrême, à exclure quelqu'un du café associatif. Voilà. Mais c'est vraiment dans des cas extrêmes. C'est pas qu'une histoire de conflit, ça, c'est des choses qui sont...
C'est de la violence.
Voilà, de la violence verbale ou psychique.
Et c'est déjà arrivé que vous utilisiez cette instance ou pas ?
Non, c'est pas arrivé qu'on utilise cette instance. En fait, c'est arrivé qu'on ait une difficulté, que plusieurs personnes des membres du Coldad aient une difficulté avec une personne en particulier, mais simplement c'est la commission de gouvernance qui s'est proposée de trouver des outils de remédiation avec la personne en question. Ça s'est fait parce que, en l'occurrence, il y avait trop de gens du Coldad qui étaient en difficulté et que à ce moment-là, on ne souhaitait pas que le groupe se retrouve face à une personne. Donc, ce qui a soulevé la question, mais qui est encore en réflexion, sur comment on fait lorsque le groupe en entier ou une grande majorité du groupe a une difficulté importante avec une seule personne. Voilà.
Donc, c'est résolu comment finalement ?
Et ben, c'est en cours de résolution. Voilà, c'est en cours de résolution, mais il n'y a pas de.
Ça se discute.
Voilà, ça se discute. C'est fluide, exactement. Ouais. C'est fluide.
Okay, c'est
fluide.
C'est bien déjà.
Oui, on est.
Ouais, c'est pas un conflit ouvert, quoi.
Non, c'est pas un conflit ouvert.
C'est juste une difficulté relationnelle. Que ressent une majorité de personnes finalement, c'est
oui,
ça ?
Oui, voilà, mais parce que c'est compliqué de à la fois d'être un groupe et à la fois d'aller tous dans le même sens et que y a bien sûr au sein des uns et des autres, et parce que c'est un projet qui est riche, il y a des personnalités riches et fortes, quoi. Et c'est bien, et même parmi les personnalités qui sont peut-être moins sur le devant de la scène aussi, il faut en prendre soin. Donc c'est absolument passionnant pour chacun et chacune, quoi. Ça, c'est sûr.
Mais c'est bien parce que vous l'avez anticipé.
Exactement. Et puis, il y a quelque chose qui est aussi important de dire, c'est que, en tout cas, on a le soin de faire en sorte que les personnes restent retrouvent leur place parce qu'il y a eu des conflits entre les uns et les autres, c'est une chose, mais on est aussi attentif à ce qu'elles puissent partir avec, voilà, avec sérénité. Ça, c'est important de pouvoir aller et venir dans cette aventure. Et si dans quelques temps, quelqu'un voudrait revenir après un conflit qui s'est bien passé, ben c'est possible. Voilà.
Ouais, c'est intéressant, ça reste positif.
Tout à fait, exactement. Ça reste une belle expérience.
Voilà, alors Stéphane, qui fait partie de la commission fournisseur. Alors, raconte-nous.
Au niveau des fournisseurs, nous, on a notre cahier des charges, c'est d'avoir des fournisseurs qui soient local et bio, dans l'idéal, lorsque c'est possible, ou alors c'est local ou bio, l'un ou l'autre, si on ne peut pas avoir local et bio. Donc voilà, au niveau de la bière, on se sert chez un petit brasseur donc bio qui se situe à Margès, et la bière qu'il fabrique s'appelle la Cantique. Voilà, il nous fournit en pression avec de la bière blonde et de l'IPA, et on va bientôt avoir aussi une bière de Noël. Après, au niveau du vin, notre fournisseur, c'est le Claude Fougère, qui est situé à Châteauneuf-sur-Isère. Donc là, on est en plein dans le local, et c'est aussi des vins bio. Donc on propose vin rouge, vin blanc et vin rosé. Et on se sert aussi chez eux au niveau des jus de fruits, qui sont aussi bio. Voilà, après tout ce qui va être... Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que la Cantique, donc notre fournisseur de bière, nous fournit aussi en limonade sous pression. Voilà, donc on a un bec qui permet d'avoir de la limonade. Après tout ce qui va être café, thé, on se fournit chez Artisans du Monde, qui est situé juste à côté du passage. Et pour les sirops, tout ce qui est sirop, on se fournit à la Biocoop. Voilà.
Tourner autour de Romans.
Ouais, voilà.
Ouais. Rester le plus local possible.
Exactement. D'accord. Voilà.
Et donc c'est toi qui t'occupes des achats.
C'est ça. C'est
et
ça.
Alors, comment vous fonctionnez au niveau du budget? T'as un budget mensuel ou comment vous faites?
Non, on achète ce dont on a besoin.
Mais comment tu peux le savoir à l'avance?
On fait des stocks. Par exemple, les fûts de bière, Quentin, quand il nous livre, il nous en livre 7 ou 8. Et quand on voit qu'on commence à plus avoir de stock, on refait une livraison, ouais. Du coup.
Du coup, c'est bien, parce que comme c'est local, justement...
Exactement, voilà. Ça permet de... Voilà, c'est pas loin,
oui.
C'est pas loin.
Ouais, ouais.
Et pour les vins, les jus de fruits, on fonctionne de la même manière aussi. Voilà, on a un peu de stock. Et
est-ce qu'ils sont... assez avantageux au niveau du prix, ils sont sympas ou comment ça se passe? Parce que du coup on se dit
oui,
le bio c'est quand même plus cher.
Oui, non, on bénéficie, vu qu'on a quand même des volumes assez importants, ils nous font des réductions. Et puis ensuite, nous, on essaye de faire une marge de 2 sur les produits que l'on vend, c'est-à-dire que voilà, on multiplie le prix d'achat par 2. Au niveau du café associatif. Et on arrive à avoir des tarifs qui sont quand même très intéressants pour du bio. Quoi.
Oui,
pour le consommateur.
Oui,
pour
c'est ça.
Ouais.
Oui, c'est de garder quand même l'idée que c'est accessible.
Exactement, exactement.
Et je ne sais pas si on en a parlé, mais je ne crois pas, vous avez le système des boissons suspendues.
Oui, donc le principe des boissons suspendues, c'est... qu'un adhérent, lorsqu'il le désire, puisse alimenter une caisse des boissons suspendues et qu'ensuite cette caisse, cet argent-là, puisse bénéficier à un consommateur qui n'ait pas les moyens de se payer la boisson. Donc à ce moment-là, on prend dans la caisse des cafés suspendus. Souvent, les gens, par exemple, ils doivent 8 euros de consommation au bar, ils vont donner 10 euros et ils vont dire les 2 euros, je les récupère pas, on les met pour les boissons suspendues.
Et il y a de la demande, ça marche ou...
Ça marche bien dans les deux sens.
Oui,
il y a pas mal de gens qui donnent. Ouais, il y a même plus de gens qui donnent
que des gens qui réclament.
Alors, c'est sur une boisson non alcoolisée, obligatoirement. Voilà. Pas le droit de prendre une bière ou un verre de vin au titre de la boisson suspendue.
D'accord. Et l'information s'est diffusée sur ce fonctionnement?
On l'a affiché.
D'accord, c'est affiché.
Ouais, c'est affiché.
Okay. Okay. Voilà. Par contre, ils sont adhérents quand même, il faut qu'ils aient cette
obligation
d'adhésion.
Oui,
parce que ça, ça a un coût aussi.
Ouais. Mais il y a aussi des, on a aussi un système d'adhésion suspendue.
Ah, ouais. C'est intéressant ça.
Donc voilà, pareil, quelqu'un qui peut se le permettre peut payer une adhésion suspendue à quelqu'un d'autre.
Allez, on va parler donc avec Léandre maintenant.
Alors, commission programmation,
programmation
de, d'exposition. Voilà, la programmation des expositions, elle a cette volonté de rythmer les, une fois par mois donc, les espaces, les différents espaces de, du café. En fait, notre objectif c'est de, au sein du café, c'est de lier le plus possible donc les expos, que ce soit des expositions de peinture, de sculpture, de photographie, d'installation, vidéo, etc. Vraiment varier les supports et aussi de les mettre en lien avec... alors ça, c'est un objectif à plus ou moins long terme, avec des débats, des conférences, des concerts qui ont lieu au sein du passage, mais qui peuvent aussi avoir lieu dans d'autres structures comme les maisons quartier, comme d'autres au niveau local, des cafés associatifs. Voilà, en fait, qu'on soit pas seul dans notre coin, mais que vraiment il y a cette volonté de rayonnement. Comme par exemple en ce moment avec Gilets jaunes 4 ans déjà, où le montage il a été fait sur trois quarts du lieu, avec un investissement assez certain de la part des... alors c'est aussi intéressant, c'est de la rencontre qu'il peut y avoir entre la structure et les artistes, c'est de construire ensemble l'exposition.
Donc est-ce qu'on peut dire que quelque part votre choix il est bon, artistique, mais peut-être aussi avec des messages, avec une dimension sociale ou des choses qui permettent de réfléchir et peut-être d'organiser des débats, c'est ça?
Exactement, il y a la volonté artistique, sociale et aussi politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a un positionnement de par ce qu'on montre, de par ce qu'on a envie d'évoquer avec le public, et notamment le temps de l'exposition, alors le temps du vernissage, mais aussi pendant le temps de toute cette période d'exposition dans le lieu. Alors, ça pourra être effectivement, comme j'en parlais tout à l'heure, lors d'une rencontre autour d'un questionnement précis, comme là en ce moment avec les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il y a de Gilets jaunes en vous? Alors, vous avez la possibilité d'écrire un petit mot pour dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a en moi qu'est-ce qu'il y aurait en moi de Gilets jaunes? Et ça pourrait être lié au sein d'une soirée pour débattre et d'émettre son avis. Enfin, on n'a pas de réponse à apporter, mais au moins des questions. On aimerait bien que ça puisse apporter des, voilà, de se poser des questions, quoi.
C'est le but, en fait.
C'est le but.
D'accord.
La communication, peut-être.
Oui, au niveau de simplement au niveau de la communication, effectivement. Donc, elle se fait via les réseaux sociaux, le Facebook et Instagram.
On cherche le passage.
Oui, sur le lieu, sur le Facebook du passage, que vous trouvez facilement. Donc ça, c'est pour la diffusion des événements et du quotidien. On essaye le plus possible de le tenir à jour. Voilà. Et puis, on diffuse aussi dans les lieux qui sont... alors, les affiches, on fabrique des affiches. Alors, des fois, c'est les intervenants, les artistes... les conférenciers qui proposent leur affiche, et nous on la relaye dans les lieux qui sont médiathèques, boulangeries, enfin tous les lieux qui sont dans l'environnement proche du passage, quoi. Voilà, et puis il y a aussi cette volonté de l'environnement proche et aussi au niveau du territoire. Là on travaille en ce moment avec l'exposition Gilets jaunes, on travaille avec des gens qui sont de Valence, de Montélimar, et il y a cette volonté aussi de travailler sur le territoire, pas seulement local, mais aussi parce que c'est les questions qu'on pose, c'est pas des questions qui concernent seulement Romans,
bien
mais
sûr,
qui...
c'est pas que local, quoi.
Okay. Merci beaucoup.
Donc, si jamais... comment on peut vous contacter? Par exemple, un artiste,
Il peut contacter directement sur le Facebook, il y a un lieu, voilà, voilà, okay, sur la messagerie directement. Puis après, ben, en venant au café, aux heures d'ouverture, hein, donc, aux heures d'ouverture donc, hebdomadaires, qui sont le vendredi, le samedi de 19h à 23h, et puis après le dimanche de 10h à 13h.
Donc on peut dire que c'est soit sur place ou Facebook,
c'est privilégié.
Ok.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Tétaclac, tétaclac, tétaclac.